Alors, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, on va lire le chapitre 48 du livre de la Genèse, chapitre 48 du livre de la Genèse, tout le chapitre. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés, ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira de ses genoux de son père, il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père. Car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm, et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. » Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et vous le fera remonter dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement aujourd'hui le sermon « Le triple bilan de fin de vie de Jacob ». Alors, on sait que quand on arrive sur la fin de nos jours et que Dieu nous fait savoir qu'on va décéder, bien entendu, les paroles qui sortent de nos bouches souvent et les gestes qu'on fait sont très significatifs. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Si vous voulez, on va d'abord implorer la bénédiction du Seigneur sur notre compréhension du texte. Seigneur, Tu es le Créateur. Tu es le Roi de l'univers. Tu es celui qui nous avait choisi de toute éternité pour nous donner la vie spirituelle, la vie éternelle en Jésus-Christ. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour ta grâce. On te prie, Seigneur, ce matin, que tu nous accordes l'assistance de ton Saint-Esprit pour que notre intelligence soit ouverte, notre être soit réceptif à toute la compréhension de ta parole. Seigneur, ne permets pas qu'on entende ce sermon sans qu'il y ait quelque chose de transformé, sans qu'il y ait quelque chose de changé en nous. C'est le but des sermons. Alors, Seigneur, permets par ton esprit, tu nous as promis dans les évangiles que tu donnerais ton esprit à ceux qui te le demandent. Et c'est ce que nous te demandons ce matin. Donne-nous ton esprit. Mais, Seigneur, on veut aussi confesser nos péchés, nos fautes, nos manquements, qui sont nombreux. Malgré nos bonnes intentions, Seigneur, notre vieille nature est encore en nous et elle veut se manifester. Et malheureusement, elle ne se manifeste que trop souvent. Alors, notre Dieu, on te confesse nos péchés, ceux qu'on a fait en pensée, ceux qu'on a fait en action, ceux qu'on a fait en omission par la langue et les fautes secrètes également. Seigneur, que ton esprit nous remplisse ce matin, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole et surtout à son obéissance, à appliquer les principes qu'on va étudier, qu'on va apprendre dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, le triple bilan de fin de vie de Jacob. Jacob sait qu'il va mourir et son fils sait qu'il est malade, donc il arrive, Joseph décide d'aller voir son père avec ses deux fils qui sont nés en Égypte. Et là, on va voir que lui, il veut recevoir la bénédiction pour ses deux enfants. Et Jacob aussi va faire un petit peu le bilan de sa vie. Moi, je vois dans le texte trois choses qui concernent, trois rôles qu'il a joués durant sa vie. Je vais vous diviser le texte de cette façon-là. Alors, le bilan de Jacob, le pèlerin. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui passe, qui voyage dans d'un point à un autre. Et nous, on est des pèlerins, nous aussi, parce qu'on voyage sur la terre, mais on est ici temporairement et on voyage vers la cité céleste. Alors, des pèlerins, on n'est pas là pour s'installer sur la terre, on n'est pas là pour développer nos richesses, développer qu'on devienne célèbre, qu'on travaille dans ce style-là. Donc, un pèlerin, c'est quelqu'un qui voyage d'un point à un autre et qui n'est pas là pour s'installer, il voyage continuellement. Donc, on va regarder un petit peu dans les 7 premiers versets comment Jacob a été pèlerin lors de son séjour sur la terre, puisqu'il peut regarder ça un petit peu avec du recul, puisque ça fait déjà un certain temps qu'il est sur la terre et il est sur le bord de quitter cette vie. Le deuxième bilan qu'on va faire, c'est le bilan du patriarche. On va voir le rôle du patriarche dans l'Ancien Testament. Il avait un rôle particulier, c'était celui de transmettre les promesses de Dieu dans l'Alliance. Et on va voir qu'il prend son rôle au sérieux et il veut transmettre à sa descendance, à Joseph et aux enfants de Joseph. Et on va voir plus tard dans le chapitre 49, quand il va faire les dernières bénédictions. C'est le chapitre 49, là, c'est tellement riche. Quelqu'un pourra faire 50 sermons. Je suis sérieux, je dis ça. 50 sermons sur Genèse 49. Parce que si tu regardais tout ce que Dieu promet à chacun des enfants, puis tu regarderais comment Dieu a réalisé, a accompli chacune des promesses qu'il fait à chacun de ses enfants. Parce qu'on lit ça des fois un petit peu rapidement, sans nécessairement aller voir qu'est-ce que Dieu veut dire concrètement en utilisant tel et tel terme. Alors, chapitre 49 est très riche, mais 48 également. Donc, on va regarder bilan de Jacob, le patriarche, du verset 8 au verset 20. Donc, l'aspect qu'il y ait un patriarche avec Abraham, ça s'est transmis à Isaac, ça s'est transmis à Jacob, et Jacob, il est sur le bord de mourir, il veut continuer à transmettre les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc, le patriarche, il est un patriarche. On va voir un petit peu ces choses-là tantôt. Et la troisième, c'est le bilan de Jacob, le prophète. Versets 21 et 22, on insiste sur le côté prophétique. Il est en train de dire, il sait qu'ils vont rester là pendant 400 ans. Mais il n'insiste pas là-dessus. Il est en train de dire, voici, Dieu va être avec vous, et il va vous faire sortir d'Égypte, il va vous ramener dans le pays promis. Alors, c'est vraiment le côté prophète de Jacob. Les Saintes Écritures nous apprennent que Jacob est mort à l'âge de 147 ans. 147 ans, c'est plus vieux que moi un petit peu. Donc, on voit ça dans Genèse chapitre 47 au verset 28. Les 17 dernières années de sa vie ont été abondamment bénies par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on sait toute l'histoire de Joseph qui a été vendu en Égypte, mais les 17 dernières années de sa vie ont été bénies. Dans le sens que Dieu, non seulement a permis que Jacob recouvre son fils Joseph qui croyait mort, qui puisse se sauver aussi de la famine terrible qui régnait en Canaan, et si ça n'avait pas été Joseph qui était rendu en Égypte, il serait mort. Tout simplement. Alors Dieu, les 17 dernières années, de 130 ans à 147 ans, Jacob a été particulièrement béni. Mais les années qui ont précédé ça, il était particulièrement aussi éprouvé. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir comment Dieu travaille. Parce qu'on peut lire l'histoire de Jacob et lire juste une histoire d'un homme qui a connu certaines expériences, et ça peut nous passer six pieds par-dessus sa tête comme application pratique dans notre vie de tous les jours. C'est là qu'on fait des gravats. Quand on lit les Écritures trop rapidement, sans chercher à comprendre les principes que Dieu veut nous faire comprendre, parce que Dieu nous parle de Jacob, pas juste parce qu'il veut nous raconter sa vie. Il nous parle de Jacob pour nous montrer qu'il y a des principes dans la vie de Jacob qui continuent à s'appliquer à nous, les croyants. Très important d'y saisir les principes parce que Dieu va continuer à les utiliser pour nous. Donc, durant les 17 dernières années, ils ont été particulièrement bénis. Prospérité, dans une période de grande famine. Retrouvailles de son fils Joseph, qu'il croyait mort. Départ pour l'Égypte sous la protection de Joseph. Paix dans la famille. C'était pas une petite chose, parce que la famille était divisée, Paix dans la famille, isolement dans le pays de Gozan. On avait vu la semaine dernière comment Dieu était bon envers Israël en permettant que le peuple d'Israël s'en aille dans la région de Gozan en Égypte. Ça les isolait et ça permettait qu'ils ne se corrompent pas avec les intermariages et toutes ces choses-là. Donc, Dieu le bénissait en isolant la petite nation naissante d'Israël des influences de l'Égypte. Aussi, la vue de sa descendance. Il était sûr que Joseph était mort. Il a cru ça pendant des années. Et là, non seulement il voit Joseph, mais il voit les fils de Joseph. À quelque part, là, c'est assez extraordinaire. On sait, quand on étudie un petit peu l'histoire de la vie de Jacob, que Jacob avait des défauts notoires. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça, des défauts notoires? Nous, on a-tu des défauts notoires dans nos vies? Un peu. J'aime bien le « un peu ». Moi, je serais plutôt porté à dire « beaucoup ». En tout cas, on a des défauts notoires, et le Seigneur ne nous laisse pas dans l'état où il nous a trouvés. Moi, si je recule de 40 ans en arrière, je me souviens très bien comment j'étais. Et le Seigneur m'a sorti de ça. Il m'a changé sous plein d'aspects. Je sais qu'il y a encore bien d'ouvrages à faire. Ça, je suis pleinement, plus que jamais, plus que pleinement conscient qu'il y a encore bien des choses à changer dans nos vies. Mais il a fait des choses. Et je lui rends grâce. La paix de l'âme, ça l'a... Moi, je me souviens que quand il est venu me chercher, j'avais la mort dans l'âme. Quand tu as la mort dans l'âme, tu haïs tout le monde, tu trouves rien d'intéressant, tu as juste le goût de sortir de ce monde, tu es écœuré, ça te sort par les oreilles. quand le Seigneur vient te chercher, qui te libère, puis qui te donne la vie éternelle, puis qui te fait connaître son Fils, Jésus-Christ, puis te donne la paix de l'âme, c'est un trésor qu'on ne peut même pas vraiment regarder. Alors, il y avait des défauts notoires qui, le Seigneur l'avait châti pour ces défauts-là. Quels étaient les défauts notoires de Jacob? La tromperie et le mensonge. On se souvient de qui a voulu tromper son père en se faisant passer pour Ésaü pour recevoir la bénédiction. Donc, il avait tendance à être un trompeur. Alors, le Dieu a permis qu'il aille chez Laban, qu'il rencontre chaussures à son pied, encore plus trompeur que lui. Alors, il y a eu des choses que le Seigneur a fallu qu'il lui apprenne dans sa vie. Il y a eu la manigance, il était un manigancieux. Je ne sais pas si ça se dit, manigancieux. En tout cas, quelqu'un qui est porté aux manigances, donc à manipuler un petit peu, puis penser que c'est lui qui est la cause des choses, un peu comme dans l'histoire des brebis là, avec son beau-père. Il pensait que c'était à cause qu'il avait enlevé les branches, avaient été. Il pensait que c'était ça. Et un petit peu plus tard, il apprend que c'est Dieu qui permettait que les brebis donnent ceux qui voulaient. En tout cas, il était manigancieux et le Seigneur lui a montré que s'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est pas à cause de tes manigances. Donc, fallait que le Seigneur corrige sa tendance à la manigance. Les stratagèmes, il se faisait toutes sortes de plans. Et la tendance à se confier à sa propre force. Au début, c'est quand vous regardez toute sa vie, vous étudiez un petit peu le développement de sa vie, il avait tendance à se fier à sa propre force. Il a manqué de foi souvent. Donc, le Seigneur a eu à travailler dans sa vie pour lui apprendre à avoir confiance en Dieu. Et ça s'est fait graduellement. Il faudra étudier toute la vie de Jacob, sortir les principes qu'on apprend où Dieu l'a changé. On en aurait longtemps à faire, je peux vous le dire. Et autre chose qui n'était pas la moindre chose non plus à changer dans sa vie, c'est l'idolâtrie. Parce qu'on se souvient, quand ils ont quitté Laban, elle avait volé les téraphimes de son père. Et donc, ils ont pratiqué l'idolâtrie un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils décident de s'en débarrasser. Mais ça a pris des corrections divines. Alors, si vous regardez l'ensemble des choses, si on regardait, on prenait l'ensemble des choses que Dieu a eu à travailler dans la vie de Jacob, et si on s'examinait nos propres vies, est-ce que Dieu a eu à changer quelque chose dans ma vie, dans le sens que j'étais porté au mensonge? Après ça, est-ce que je t'ai apporté un petit peu moi aussi à la manigance, à la confiance en moi-même, au manque de foi en Dieu, à l'idolâtrie sous toutes ses formes? On sait que l'idolâtrie, là, c'est pas juste adorer une statue ou une affaire en or, là. Quand on étudie le phénomène de l'idolâtrie dans la société moderne, on a plein d'idoles autour de nous, on a plein. Alors, le Seigneur, il va venir aussi changer des choses dans nos vies. La même chose qu'il a faite avec Jacob. Moi, je trouve que si on étudie la Genèse, puis qu'on fait juste lire l'histoire de Jacob, puis qu'on lit une histoire pour une histoire, on manque le bateau complètement. Il faut regarder le texte dans le sens, qu'est-ce que Dieu veut me montrer, qu'est-ce que Dieu veut changer en moi en étudiant ce texte-là. Là, on est sur la bonne voie quand on fait ça, si on le fait surtout en prière. Donc, sa vie a été parsemée d'expériences douloureuses et amères. On en a nommé quelques-uns. Le conflit avec son frère Ésaü. Le conflit était tellement intense qu'Ésaü, il en voulait tellement qu'il voulait le tuer. Lui, là, mais que le père soit plus là, je vais l'étrangler, le tuer, n'importe quoi. Alors, il y avait eu un conflit sérieux avec Ésaü. Ensuite, il a dû s'expatrier pour sauver sa vie. Ensuite, il a été exploité et trompé par son beau-père Laban, quand on regarde toute l'histoire de pendant 20 ans. Alors, le trompeur trompé, ça, je trouve ça intéressant. Autrement dit, le Seigneur, quand il veut corriger un défaut dans nos vies, souvent, il utilise le trompeur. Si tu as tendance à la tromperie, il va s'organiser pour que tu rencontres quelqu'un qui est encore plus trompeur que toi pour te montrer des leçons. Intéressant comme principe. Ensuite, la peur de la vengeance d'Ésaü. Au bout de 20 ans, quand il a voulu quitter, Y avait-tu peur de son frère ou s'il n'y aura pas peur de son frère? Ah, je vais lui envoyer des moutons pour le calmer. Je vais faire ci pour le calmer. Je vais faire ça pour le calmer. Il avait encore son petit côté maniganceux. Il pensait que c'était à cause de ça. Jusqu'à ce qu'il lutte avec l'ange, que l'ange lui déboîte la hanche. Très intéressant, toutes ces choses-là. Ensuite, la mort de Rachel, qui nous dit dans le texte d'aujourd'hui. Rachel, là, c'était sa bien-aimée. La première femme pour laquelle il a travaillé 7 ans. Et que son beau-père, il en a passé une petite vite, il a passé sa sœur à la place. Alors, c'est très intéressant tout ce que Dieu lui a fait vivre pour corriger des défauts notoires dans sa vie. Qu'est-ce que nous, on a à apprendre de tout ça en étudiant ça? On a à apprendre que Dieu va faire la même chose dans nos propres vies. On a fort probablement tous les péchés qui ont été mentionnés dans la vie de Jacob, on a fort probablement des traces dans nos propres vies. Pensez que le Seigneur va vous laisser de même? Si vous avez tendance à manigance, le Seigneur va vous donner des leçons. Si vous avez tendance à tromperie, le Seigneur va vous donner des leçons sur la tromperie, etc., etc. Et la chose qui était une expérience extrêmement difficile pour lui dans sa vie, c'est la supposée mort de Joseph. Quand on lui a annoncé avec un vêtement trempé dans le sang des animaux que c'était, reconnais-tu cette tunique, la tunique de couleurs, de diverses couleurs? Pour lui, là, dans la vie d'un homme, d'un père qui aimait son fils parce que c'était son fils préféré, ça l'a, comme on dit, ça l'a assommé, ça l'a tué. Puis ses fils, ils pensaient fort probablement qu'on va s'en tirer au bout d'une couple d'années, le bonhomme va oublier ça. Dieu a fait en sorte que le bonhomme, comme on pourrait dire, n'a pas oublié ça. Et il était tellement attristé et brisé par cette expérience-là que eux, ils voyaient l'état de leur père devant eux, ça les accusait à chaque jour. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus de paix dans la famille. Et aussi, la dernière chose qu'il fallait qu'il tombe dessus, c'est la grande famine. 7 ans, là, qui est semblé, là. Si Joseph, par les circonstances providentielles, n'avait pas été amené comme deuxième en Égypte, la nation naissante d'Israël, là, c'était des très gros risques que ça s'effrite, mais la main de Dieu était en arrière de tout ça. Parce que quand Dieu fait des promesses qu'il va envoyer un Messie, il n'était pas pour laisser écraser ou laisser mourir la nation qui était pour être la courroie de transmission vers le Messie. Alors, ça menaçait cette grande famine-là, l'existence même de la nation d'Israël. Donc, Dieu a travaillé dans sa vie, à plusieurs niveaux, corrigé ses défauts, et il lui a fait vivre des expériences douloureuses et amères. Avez-vous remarqué ça? Dans vos vies, quand vous prenez l'ensemble des expériences que vous avez vécues dans vos vies, moi, ça fait 40 ans, je suis chrétien, là, à peu près, les choses qui m'ont fait évoluer le plus, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Vous remarquez ça? La douleur, souvent, est très bonne pédagogue. Elle nous enseigne des choses. Le Seigneur nous fait vivre. C'est pas parce que le Seigneur prend plaisir à nous voir souffrir, ça n'a rien à voir. Le Seigneur prend plaisir à nous sanctifier. Et il y a des choses à changer en nous. Donc, le Seigneur, durant toutes ces années-là, parce qu'il était rendu à 130 ans quand il est parti pour l'Égypte, et là, il était rendu à 147 sur le bord de mourir. Donc, les 17 dernières années ont été bénies pour lui. Mais durant toutes les années précédentes, le Seigneur lui avait montré quoi? La prière. Lui avait montré à prier. Lui avait montré aussi la dépendance de Dieu. Apprendre à dépendre de Dieu, c'est pas facile. On a tellement tendance à vouloir tout diriger et tout contrôler dans nos vies. Dépendre de Dieu, quand on est dépendant, tu as un bébé, là, si vous prenez un bébé, là, es-tu dépendant, c'est à ton goût? Là? Si tu le nourris pas, si tu changes pas de couche... Mais nous, il faut apprendre à être dans l'état comme un bébé face au Seigneur. Il faut apprendre à dépendre de lui en toutes choses. Donc, il fallait qu'il apprenne la dépendance. Il fallait qu'il apprenne l'adoration aussi, parce qu'après les choses difficiles que le Seigneur lui a fait vivre, le Seigneur faisait toujours en sorte, quand vous regardez l'histoire de sa vie, il finissait toujours par élever des autels et adorer. Le Seigneur lui a montré adorer. Et le Seigneur lui a montré à lui faire confiance. Ça a été long dans son cas. Jacob, c'est vraiment l'image du chrétien charnel que le Seigneur, il faut qu'il corrige par-dessus correction, par-dessus correction, par-dessus correction pour arriver à obtenir un résultat. Mais le Seigneur, il ne te lâchera pas, là. Peu importe les défauts que tu as, peu importe la gravité des défauts que tu as, il va t'entreprendre puis il va te transformer. Et il va te changer. Donc, à la fin de sa vie, Jacob reconnaît tacitement, du moins, que le début de sa carrière avait été entaché par le péché, qu'il avait manqué de droiture envers Dieu. Et au moment de mourir, il ne parle que de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies. Mes amis, on dit qu'on est sauvé par grâce, donc la grâce initiale, quand le Seigneur vient nous chercher et nous ouvre les yeux sur notre condition de pécheur, et aussi sur la glorieuse personne de Christ. À un moment donné, il enlève le voile sur notre nature, on se voit tel qu'on est. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a aucun d'entre nous qui s'est vu encore tel qu'il est. Parce que c'est laid. La nature pécheresse est d'une laideur, on n'a pas aucune idée jusqu'à quel point c'est grave. Le Seigneur nous le montre graduellement. J'avais déjà lu quelque part, je ne me souviens même plus c'est qui a écrit ça, mais je me souviens de l'avoir lu, que si le Seigneur nous montrait l'étendue et la profondeur de notre misère d'un coup sec, on mourrait de douleur. Parce que des fois, quand on découvre certaines parties de nos personnes, là, qu'on se découvre vraiment, là, juste aux yeux de Dieu, là, parce que les hommes, on est des champions pour se cacher aux yeux des hommes. On est des champions. Tous, on est tous pareils. Mais aux yeux de Dieu, quand on apprend à découvrir qui on est, c'est douloureux. C'est très douloureux. Le Seigneur veut nous montrer ça. Alors, il ne parle que de la grâce de Dieu, donc il y a la grâce initiale, mais il y a les innombrables grâces que le Seigneur déverse sur nous tout au long de notre vie. Et les innombrables grâces, c'est justement nous montrer qui on est. La plus grande bénédiction que Dieu fait dans nos vies, c'est de nous montrer qui on est. Et aussi de nous montrer qui il est. Ce que je disais tantôt, plus tu vas connaître la grandeur de Dieu, plus tu vas connaître la profondeur et l'étendue de ta corruption, plus tu vas être en mesure de vouloir dépendre de Dieu. Tu ne voudras plus dépendre de toi parce que plus tu vas te découvrir, plus tu vas te décourager. Tu vas dire, oui, je veux dépendre de Dieu parce que lui, il a tout ce qu'il faut pour que ma vie soit bien menée. Donc, droiture envers Dieu, au moment de mourir, il ne parle que de la grâce de Dieu. Jacob a fait preuve pendant sa vie, et même durant ses derniers jours, d'une foi inébranlable en Dieu. Malgré tous ses défauts, il finissait toujours par comprendre, puis revenir à Dieu. Je dirais que c'est l'exemple par excellence de l'homme charnel aux nombreux défauts. Parce que quand on est sauvé, on est encore charnel parce que la nature charnelle continue de nous habiter. Normalement, notre direction, notre développement de vie devrait être qu'on nos défauts, le Seigneur les corrige de plus en plus, de mieux en mieux. Donc, on s'améliore. Mais il reste que la vieille nature, là, si tu la mortifies pas, là, elle veut reprendre sa place, puis elle veut la reprendre avec une vitesse qu'on est surpris des fois de voir jusqu'à quel point, même après 30, 40 ans de vie chrétienne, certains défauts ont tendance à remonter à la surface avec une rapidité. Or, bien entendu, ça prend la grâce de Dieu pour... Alors, maintenant, il nous parle de la grâce. On peut dire qu'il est aussi le type de la prédestination. Quand on lit Romains 9, qui est un chapitre extrêmement controversé dans les Écritures, Romains 9, s'il y a un chapitre où il y a eu une langue qui a coulé, c'est bien Romains 9. Quand on lit Romains 9, versets 11 à 13, parce qu'on prend le nom de Jacob pour nous parler de l'élection. Parce qu'il dit, Romains 9, versets 11 à 13, « Car les enfants n'étaient pas encore nés. » Et n'avait fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » On parle d'élection. Très intéressant. Alors, on prend le personnage de Jacob pour en faire un modèle d'élection. Il y avait deux jumeaux. Dieu a dit, « C'est le plus jeune que je prends. » L'autre, il va être béni à sa façon, mais il ne sera pas béni spirituellement. Alors, très intéressant. Et aussi, le fait que dans Hébreux, chapitre 11, on utilise encore son nom pour nous parler, Dieu n'a pas honte de l'utiliser, Dieu de Jacob. Donc, dans Hébreux 11, 21, ça dit, « Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. » Alors, on parle de... Parce que c'est le chapitre 11, c'est le chapitre de la foi dans Hébreu. Et son nom est mentionné là. C'est un honneur que d'être mentionné dans ce qu'on appelle le corridor de la foi. Dieu prend tous les grands exemples, les grandes figures de foi de l'Ancien Testament et il est en train il met son nom. Donc, à quelque part, Jacob, on peut y voir des défauts, mais c'est un croyant. Alors, rien n'est plus significatif, comme je vous disais tantôt, et révélateur que les derniers moments de vie d'une personne. Moi, ce que j'aime, il y a un site web, j'avais trouvé ça sur YouTube à un moment donné, c'était les dernières paroles des grands saints ou saintes. Il y a des exemples, c'est très significatif. Prenez les dernières paroles d'une personne, prenez Jésus, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Les dernières paroles d'une personne révèlent ce qu'il est, ses valeurs, il reflète toute chose. Alors ici, on voit les derniers jours de Jacob. Alors, ça révèle, bien entendu, la force et l'authenticité de ta foi. Ça révèle ton amour de Dieu, parce que si tes dernières paroles, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est parce que tu as confiance en lui, puis tu sais que ton esprit, il ne l'enverra pas n'importe où. Ça parle de tes valeurs et ça parle aussi de tes aspirations éternelles. Quand il leur dit, les dernières choses qu'il leur parle de prophète, il leur dit, Dieu sera avec vous et vous amènera vers la terre promise. Bien entendu, la terre promise, pour eux, c'était une terre physique, mais je pense qu'il y avait plus que la terre physique aussi. Il y avait une référence à la vie éternelle. Céleste. Alors, on va regarder les trois idées, le bilan de Jacob le pèlerin. Alors, le pèlerinage, ça s'applique à la vie entière. Quand on parle de quelqu'un, un pèlerinage, on peut dire, oh, j'ai fait un pèlerinage à tel endroit, mais je veux dire, le pèlerinage comme toute ta vie. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Avec crainte, ça veut dire on se doit de craindre Dieu durant tout le temps qu'on va être en train de voyager pour s'en aller vers le ciel. Tous les jours. Alors ici, il y a une chose que Jacob comprend, que dans son pèlerinage, c'est Dieu qui l'a assisté divinement. Parce qu'il dit, « Or, il arriva après ces choses qu'on dit à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Alors, il prit ses deux fils avec lui, Manassé et Ephraïm. On le fit savoir à Jacob et on lui dit, « Voici, ton fils Joseph vient vers toi. » Alors, Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'apparut à Luz, au pays de Canaan, et me bénit. » Et il me dit, « Voici, je te ferai croître et multiplier. Je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi, en possession perpétuelle. » Qu'est-ce que Jacob est en train de dire? Il est en train de dire, il est conscient des bénédictions divines qu'il a reçues tout au cours de sa vie. Dans les versets 1 à 2, il y a le privilège de la présence des bien-aimés au moment de mourir. Quand j'ai lu le commentaire que j'utilise, ben, je n'utilise plusieurs, mais en tout cas, un des commentaires disait, c'est un grand privilège que de mourir avec ta famille qui t'entoure et tes bien-aimés qui sont là. Oui. C'est ça que Dieu permet dans sa vie à Jacob. Il est privilégié. Parce que ça n'arrive pas à tous les hommes, ça. Il y a bien du monde qui crève tout seul dans le coin, ou pas tout seul, mais avec des étrangers. Mais mourir avec tes enfants, que Dieu te permet de les voir, de les bénir, c'est extraordinaire. Ensuite, la bénédiction de la force et de la lucidité dans ses vieux jours. Il s'assit sur son lit, il est sur le bord de mourir, mais Dieu lui donne quand même suffisamment de force pour faire les derniers gestes qu'il veut faire pour ses enfants, dans le verset 2, et la pleine réalisation que Dieu a été présent avec lui tout au long de sa vie. Moi, je vais avoir 113 dans quelques semaines. Dieu a été avec moi durant toutes les années de ma vie. Puis plus on vieillit, plus on est conscient de ça, que Dieu a été avec nous malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, malgré nos souffrances. Et aussi dans le verset 4, la certitude de l'accomplissement de l'alliance divine dans le verset 4. Quand il dit, il répète les paroles que Abraham a reçues de Dieu dans l'alliance, de leur donner une terre et toutes les promesses que Dieu a faites dans l'alliance. Très, très intéressant. Il est certain, à la fin de sa vie, que les promesses que Dieu a faites à Abraham, qui ont été transmises à Isaac, qui ont été transmises à lui, et que lui va transmettre à d'autres, ça va s'accomplir. Merveilleux, hein? Versets 5 et 6, le pèlerin qui est éclairé sur la bénédiction du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, aujourd'hui, on a perdu un petit peu la signification de ce que ça veut dire et des privilèges qui étaient rattachés à ça. On aurait, des fois, quand on l'a fait, les sermons là-dessus, sur le droit d'aînesse, on l'a tout expliqué, on ne rentrera pas là-dedans, là, mais il reste que c'était un immense privilège. Alors, quand Ésaü a comme méprisé son droit d'aînesse, il faisait quelque chose d'extrêmement grave. Alors, dans verset 5 et verset 6, il dit, « Et maintenant, tes deux fils, » il parle de ses deux fils qui sont nés en Égypte. Autrement dit, ce n'était pas des Hébreux pure laine, là, ces deux fils. Il avait marié une Égyptienne. Donc, il avait mi-hébreu, mi-égyptien. Et on voit ce que Jacob est en train de faire, c'est de les accueillir complètement et totalement dans la famille israélienne et d'en faire des piliers. Il dit, « Maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi. » Et ici, il y a une leçon très importante, il dit, « Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Et ça, ici, souvent, on pense... Quand je vous disais ce matin que la parole est riche, c'est quand tu te mets à lire des fois des commentaires sur des personnes beaucoup plus savantes que toi, beaucoup plus expérimentées que toi, ce qu'ils découvrent, tu te dis, « Ah, j'ai jamais vu ça. » Pourquoi ils mentionnent juste le nom de Ruben et de Siméon? Ruben était quoi? C'était quoi sa caractéristique à Ruben? Le premier-né! Premier fils de Léa. C'est lui qui aurait dû être le courroie de transmission pour emmener le Messie futur. Il l'a perdu comment? Il a couché avec la femme de son père. Il a perdu son droit d'aînesse. Si quelqu'un vient me dire, c'est pas un immense honneur que d'être dans la courroie de transmission de l'arrivée du Messie, ben là, il n'y a rien à faire avec toi. T'as pas compris. Il dit, comme Ruben et Siméon, « Mais les enfants que tu auras engendrés après eux, ils seront appelés du nom de leurs frères et dans leur héritage. » Donc, Jacob, ici, il va procéder à l'adoption officielle des deux fils de Joseph pour qu'ils jouissent des privilèges perdus par les deux fils qui auraient dû les avoir, ces privilèges-là. Ruben, il l'a perdu. Il était le premier-né, il a perdu les privilèges du droit d'aînesse. Et Siméon, pourquoi? Parce qu'il était violent. Souvenez-vous de l'histoire de Dinah?
Oui.
Siméon était un violent. Et Dieu et son père, plus tard, on va le voir dans le chapitre 49, Dieu, Jacob va dire, votre violence, là, j'en veux pas. Il va être sévère envers eux, Siméon et Lévi, qui ont été des instruments de violence. Dans ce... Alors, ici, les deux fils de Joseph seront désormais deux tribus d'Israël. Ils vont, ils remplaceront pas, parce que les deux autres vont demeurer là, mais ils vont devenir avec les privilèges de Ruben et de Siméon, et ça va être Éphraïm et Manassé. Il y a encore une autre affaire, c'est qu'encore une fois, le Seigneur va démontrer sa souveraineté dans le fait d'établir le plus jeune sur le plus vieux. Normalement, ça aurait dû être le plus vieux qui aurait eu le droit d'aînesse avec Joseph. C'est pour ça que quand il a mis les mains, son père il a dit, « Ah non, non, pas comme ça, papa, mets la main. » Non, non, je ne me trompe pas. Ce que je le fais sciemment, je le fais consciemment et je le fais volontairement. Le plus jeune va être plus grand que le plus vieux. Le droit souverain du Seigneur d'établir, un peu comme avec Ésaü et Jacob. Ésaü était le premier-né, il a perdu, il l'a vendu pour un plat de mine, lui. Alors ici, l'adoption des deux fils de Joseph vont faire en sorte que Manassé et Éphraïm vont jouer des privilèges de leurs deux frères qui ont perdu leurs droits à cause de leur comportement et de leur péché. À remarquer vraiment le choix souverain du Seigneur dans l'ordre accordé aux deux fils de Joseph. Tous les autres fils de Joseph, qui sont non mentionnés, devront être inclus, comme il dit, dans les tribus d'Éphraïm et de Manassé. Un passage pour comprendre ce qui se passe là, c'est dans 1 Chronique, chapitre 5, les versets 1 et 2, qui dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. » Très intéressant de voir le droit d'aînesse, de quelle façon le Seigneur utilise ça dans sa main souveraine pour dire « c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Puis souvent, il va faire ça, il va faire passer le plus jeune avant le plus vieux. Alors que normalement, ça aurait dû être le plus vieux qui aurait eu les siens. Et dans le verset 7, il veut rappeler jusqu'à quel point, au cours de sa vie de pèlerinage, jusqu'à quel point il a été éprouvé. Parce que quand il dit, dans le verset 7, Genèse 48, verset 7, « Pour moi, quand je revenais de Paddan, Rachel mourut auprès de moi, au pays de Canaan, en chemin, lorsqu'il y avait encore quelques distances pour arriver à Éphrath, et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrath, qui est Bethléem. » Encore une fois, Éphrath, Bethléem, on est déjà en train de parler du Christ. Parce qu'on le sait que le Seigneur Éphrath, Bethléem. On est en train d'introduire des notions intéressantes par rapport à Christ. Si ça ne va pas être du subterfuge de Laban et de Léa, Joseph aurait été son premier-né, n'est-ce pas? C'est que s'il avait marié celle pour laquelle il avait travaillé 7 ans en premier, le premier-né, ça aurait été qui?
Joseph.
Alors qu'il l'a perdu à cause des manigances. Mais quand même. Alors, la mort précoce de Rachel à la naissance de Benjamin signifie, bien entendu, qu'il n'aura plus d'enfant d'elle. L'adoption des fils de Joseph compense cette perte. De voir comment le Seigneur travaille à travers les erreurs des hommes, à travers les péchés des hommes. Parce que Laban, quand il a passé Léa pour Rachel, c'est un grave péché qu'il faisait. Mais la manière que le Seigneur se sert des péchés des hommes pour arriver à ses fins, en passant par-dessus et même en les utilisant, ça c'est quelque chose de fantastique dans les Écritures. Alors, lorsqu'ici il insiste sur l'endroit où Rachel fut enterrée, Jacob fait comprendre qu'il désire lui aussi être enseveli en Canaan. Il dit, ma femme, moi je l'ai enterrée en Canaan. Moi, je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas avec mon corps ici. Joseph va faire la même chose. Après son séjour, il va dire, il va faire promettre qu'on sorte son corps. Imaginez-vous, vous avez été enterré, Puis les eaux, tu veux même pas que tes eaux restent dans le pays d'Égypte à cause du symbolisme qu'il y a par rapport au péché et tout ça. Alors, lui aussi, il veut démontrer à son fils que de la même manière que lui a enterré son épouse en Canaan, lui aussi, il veut retourner en Canaan. Alors, pour aujourd'hui, je pensais que je ferais ça dans une shot, mais je pense qu'on va être obligé de faire une deuxième leçon. À partir du verset 8 à 20, on le fera la prochaine fois. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on va prier. Notre Dieu, on peut entendre ta parole. Et il y a toujours un risque que les principes que tu veux nous enseigner nous entrent par une oreille, qu'ils sortent par l'autre. Alors que, Seigneur, ce n'est pas le but de ta parole. Ta parole veut nous transformer, veut nous faire comprendre des principes que tu continues à appliquer dans nos vies quotidiennes de tous les jours. Des principes que tu continues aussi à nous corriger de nos défauts. Que tu continues à nous enseigner à dépendre de toi, à prier davantage et plein d'autres leçons encore. Notre Dieu permet qu'on comprenne de plus en plus la richesse, la profondeur, l'étendue de ta parole, Seigneur, ouvre nos yeux. Permets qu'à chaque jour, on y consacre un temps important. Parce que chaque journée qu'on passe sans lire ta parole, sans la méditer, sans l'étudier, sans l'apprendre par cœur. Et notre Dieu, on a besoin que tu nous soutiennes dans ce combat parce qu'on sait que notre chair est toujours là et qu'elle cherche à nous éloigner de ta parole. Permets qu'on s'y attache de plus en plus. Et cela d'autant plus qu'on approche des temps de la fin et que le combat va devenir de plus en plus difficile. Seigneur, permets que notre relation avec ta parole soit de plus en plus profonde et riche, de plus en plus fidèle. La même chose avec la prière. La même chose, Seigneur, donne-nous du courage pour parler de toi autour de nous. Et donne-nous de nous aimer les uns les autres de plus que jamais. Et permets, Seigneur, que tu demeures toujours au centre de nos vies, dans la personne de Christ. Permets que tu sois constamment dans nos idées pour que nos vies ressemblent à ce que tu veux que l'on devienne, ressemblant à la personne de Christ. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.